que moi, que l'on tourne autour, ou que l'on travaille, un thème on avait démarré avec qui est l'Éternel des armées. Même question. On avait parlé des lieux célestes, qu'on était 100% justifié par Christ. On avait vu, voilà, non par puissance, mais par l'Esprit de Dieu. On avait vu être caché en Christ. Et puis on a commencé à détailler un petit peu ces textes, ces visions que des hommes ont eues de Dieu, avec ces êtres vivants qui sont en même temps un lion, un bœuf, un homme et un aigle. On a vu le lion, on a vu le bœuf, on a vu qu'est-ce que c'est que les cieux déchirés, qu'est-ce qu'il y a derrière le voile. On a vu Dieu combattra pour nous, pour vous. Et on a commencé à voir Dieu, vrai homme, vrai Dieu. Et ce matin, j'aimerais voir avec vous ce titre de Christ, Fils de l'homme. C'est un titre générique hein, pour dire être humain. Bon, voilà, Jésus était un homme. Il est aussi Fils de l'homme. Juste le credo hein, qui a été défini un petit peu, la proclamation de foi de l'Église chrétienne en 325, Jésus le Christ, le Fils unique de Dieu, vrai Dieu, né du vrai Dieu, pour nous les hommes, s'est fait homme. Vrai Dieu et vrai homme. Ce matin, il y a un homme dans le ciel. Ces figures mystérieuses, voilà, on lit ça dans Ézéchiel, dans Ésaïe, dans l'Apocalypse, ces êtres un petit peu mystérieux, ils protègent la gloire de Dieu. Et nul ne peut approcher Dieu, nul ne peut le voir en dehors d'une relation avec le Christ Jésus, avec le Fils de Dieu. Je dis souvent dans le monde spirituel, on n'y va pas avec ses chaussures de sécurité, avec ses gros sabots. Souvent, l'Écriture dit, hein, quand les hommes voulaient rencontrer Dieu, enlève les chaussures de tes pieds. C'est-à-dire que ce lieu est saint. Il y a une... On ne peut pas ouvrir la porte à toute volée et puis dire, ah, salut Dieu, c'est moi. Il y a des protocoles. Fils de l'homme. On trouve cette expression dans le Nouveau Testament 69 fois. Chez Jean, 12 fois. Chez Matthieu, 25 fois. C'est la manière dont Jésus se définit lui-même. C'est lui-même qui s'appelle Fils de l'homme. On lit ensemble un texte dans les Actes des Apôtres. Texte un peu difficile. Acte 6, le verset 3. Première église, les gens vivent en communauté, ensemble. Et puis il semble qu'il y avait un petit peu quelques différences dans ces premiers chrétiens, les chrétiens de Judée, les chrétiens de Jérusalem, et les chrétiens de la diaspora, les chrétiens qui étaient plutôt de langue grecque, peut-être romaine, voilà, il y avait une petite différence. Puis à un moment donné, il y a eu des tensions. L'Église reste aussi très humaine. C'est pourquoi, frères, choisissez-vous cet homme de qui l'on rend un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint de sagesse, que nous chargerons de cet emploi pour distribuer les rations humanitaires. On dirait ça aujourd'hui. Hein. Il faut choisir des hommes et on voit qu'ils ont une qualification humaine, qualification intérieure. Ce n'est pas tellement qu'ils savent compter ou. Que ce soit des experts de la grande distribution, Leclerc, Auchan, qu'ils ont leur diplôme dans ce domaine-là. Choisissez-vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse. Parfois, les tâches les plus humbles demandent des qualifications intérieures, qualifications personnelles, une réalité humaine un peu plus grande que l'ordinaire. Nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'Assemblée. Ils ont réussi à avoir l'unanimité dans la première Église. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe Procor Nicanor, Timon Parménas, Nicolas prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la loi. Parfois, on a une vision un peu difficile de ceux qui géraient les choses religieuses du temps de Jésus. Des hommes religieux qui avaient une fonction. Voilà, certains sont venus à Jésus. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. En plus du diaconat, il est évangéliste. Sauf que c'est le début des persécutions. Et que Étienne va être attrapé. Et il va faire un grand discours, c'est tout le chapitre 7 des Actes. On ne va pas le lire, mais je vais vous lire la fin de l'histoire d'Étienne. Acte 7, 54. Étienne les secoue un petit peu. Alors, en disant, oui, vous êtes le peuple élu. Vous avez Moïse, vous avez David, vous avez le temple, vous avez plein de choses. Mais comment est-ce que vous considérez le Christ Jésus? En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur, ils grinçaient des dents contre lui. Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu. Jésus, debout à la droite de Dieu. Il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris, se bouchant les oreilles, ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Ils le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saül. Ils lapidaient Étienne qui priait disant « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». S'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Ça pourrait être paisible. La manière dont Luc a écrit la finale de ce texte. Et il s'endormit. Sauf qu'avant, c'était un petit peu pénible et compliqué. Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. On est quelques jours, quelques semaines après Pâques. Jésus est ressuscité. Et Étienne a cette vision du Christ en gloire à la droite de Dieu. Et je pense que c'est ce qui va le réconforter. Je vois les cieux ouverts. Et le Fils de l'homme, debout à la droite de Dieu. Quand il dit ça, il rend gloire à la souveraineté, à la divinité de Jésus. Et pour les Juifs, à ce moment-là, c'est trop. Étienne va être le premier martyr de l'Église. Il garde des valeurs chrétiennes jusqu'au bout, des béatitudes. Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Il faut de la force d'âme quand on est lapidé pour pouvoir aller jusque-là. Étienne en grec, c'est Stéphanos, ça veut dire couronne. Et je pense qu'Étienne va recevoir la couronne de victoire, de gloire, couronne de martyr. On a un personnage qui est présent à ce moment-là. Il est dit Saül. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saül, futur apôtre Paul. Je ne sais pas s'il a applaudi. Il était un petit peu énervé à ce moment-là, Paul. Il disait, mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui croient en Jésus? La vraie compréhension juste, c'est nous qui l'avons. Et qu'est-ce que ces hommes viennent faire? Il a eu une vision de la gloire de Dieu. Alors que les hommes le lapidaient. Et Luc nous dit simplement, et il s'endormit. Lui aussi, il a remis son âme à Dieu, comme Jésus sur la croix. Tout est accompli. Et il rendit l'esprit, je le dis tout à l'heure, hein, c'est ce texte de Jean. Jésus a donné sa vie sur la croix. Étienne a donné sa vie pour la première église. La première église s'est super bien développée à Jérusalem. Et la persécution fait que tous ces milliers de chrétiens ont irrigué le monde antique et le christianisme s'est ainsi développé. J'aimerais lire avec vous un texte dans l'évangile de Marc, au chapitre 9. Les versets 2 à 4. Au verset 1, il leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une telle blancheur qu'il n'ait pas de foulon sur la terre, qu'il ne puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Fils de l'homme a été transfiguré. Il a eu un avant-goût de ce que c'était que la gloire céleste. Et 3 hommes ont été témoins, Pierre, Jacques et Jean. Pierre en parlera dans ses épîtres, il dit, quand nous avons vu sa gloire, ils ont vu quelque chose. Au moment d'être martyr, Étienne a vu quelque chose qu'on ne voit pas d'ordinaire. J'aimerais lire encore un texte avec vous dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 2. Les premiers versets, Jésus avec ce voilà, fils de l'homme, c'est un titre christologique, c'est un titre messianique, un titre prophétique. Et on voit que des hommes, des prophètes ont ce titre. Ézéchiel 2, les 2 premiers versets, il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'entendis celui qui me parlait. C'est un bel appel au service. « Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds. Position de service, à l'écoute. Tiens-toi sur tes pieds, je te parlerai. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'esprit entra en moi. C'est une position que nous pouvons avoir chacun, personnellement, homme ou femme. Être humain. Tiens-toi debout dans la présence de Dieu et demande à l'esprit d'être vivant en toi. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'esprit entra en moi, me fit tenir sur mes pieds. J'entendis celui qui me parlait. Il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël. Il a reçu une tâche pas facile. Mais tous ces hommes, ces prophètes, sont aussi des exemples, des modèles pour nous, des types de Christ. Christ aussi a été rempli du Saint-Esprit. Quand il est sorti des eaux du baptême, il a vu l'Esprit venir sur lui sous la forme d'une colombe et la voix qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Tiens-toi sur tes pieds. » Parfois, on aurait peut-être envie de se plaindre pour X raison. Alors c'est bien parfois d'être à genoux dans la difficulté, dans la souffrance, et de s'adresser à Dieu. Je pense que c'est plus difficile ou moins courant pour nous de nous tenir debout sur nos pieds, dans la louange, et puis de dire, esprit du Dieu vivant, esprit, c'est l'esprit de Jésus, c'est l'esprit du Père. Viens sur ma vie. Aujourd'hui, c'est Pâques. Non. On célèbre la croix. La résurrection, Pentecôte, c'est dans quelques temps. Mais on peut, là aussi, de manière régulière, ressourcer sa foi aussi par ses attitudes des hommes de Dieu. Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds. Michel, tiens-toi sur tes pieds. Juliette, pour chacun mettre son nom. J'aimerais lire un autre texte avec vous, en prise directe avec ce titre de Christ, Fils de l'homme. C'est dans le prophète Daniel. C'est un texte important puisque c'est une clé de compréhension de qui est Christ dans son œuvre messianique. Daniel chapitre 7, les versets 13 et 14. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours. Et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas. Et son règne ne sera jamais détruit. J'aime beaucoup ce texte, j'ai beaucoup retravaillé depuis quelques années toutes mes positions concernant l'eschatologie, c'est-à-dire les derniers temps, où je préfère dire la fin du temps des nations. Et puis aujourd'hui, quand on voit l'environnement international, la géopolitique de ce monde, ça sent le... on rentre dans un monde compliqué, si ce n'est pour moi qu'à un certain âge, en tous les cas pour mes enfants et petits-enfants, et de relire ce texte, je me dis, waouh. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue le servirent. Celui qui est à la droite de Dieu, celui qui a été élevé sur la croix, a été élevé à la droite de Dieu. Après avoir fait une œuvre de délivrance, de libération, de rédemption, il est à la droite du Père. Il revient pour juger le monde, pour enlever les chrétiens, pour prendre tous les disciples de Jésus avec lui. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, son règne ne sera jamais détruit. On peut avoir peur peut-être de ce qui se passe dans les nations, dans les royaumes de ce monde. Il y a un royaume qui est plus grand. Depuis 2000 ans, Christ est à la droite du Père. À un moment donné, au moment choisi par le Père, il va dire au Fils, entre dans ton règne, entre dans ton héritage. Son héritage, c'est nous. Sur la nuée des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. Si vous lisez le livre d'Ézéchiel, parfois il y a de quoi pleurer puisque c'est le prophète qui a vu le départ de l'Esprit Saint, de la gloire de Dieu de Jérusalem. La déportation, c'est le prophète du renouveau de l'esprit, celui qui voit tous les os, la vallée des ossements, et puis qui se dit, mais là, qu'est-ce qui se passe? Puis Dieu lui dit, mais voilà, prophétise, dis aux os, allez, debout, dis-leur qu'il y ait des muscles, qu'il y ait de la chair. Puis à la fin, il dit que l'esprit vienne dessus. Cette partie-là est en partie réalisée. 70 ans, 1948, Israël est dans son pays. Il leur manque encore l'esprit. À un moment donné, il faudra prophétiser que l'esprit vienne sur Israël. 84 fois, Ézéchiel est nommé fils de l'homme en tant que prophète. C'est une figure messianique, une figure de Christ, une image de Christ avant son incarnation. Ces deux versets de Daniel ont été compliqués à comprendre dans le judaïsme. Les sociétés du Moyen-Orient attendaient un homme providentiel capable de les délivrer quand ils étaient asservis. Israël, un tout petit pays, hein, 200 km, 30 km de large, c'est tout petit, et puis entre l'Égypte et le Moyen-Orient, c'était un passage incessant pendant des siècles. Tantôt c'était les Égyptiens, tantôt c'était les Syriens, tantôt c'était les Perses, tantôt c'était, enfin à l'époque c'était pas les Turcs, c'était les Hittites, mais voilà, donc c'est un pays qui a connu des temps de paix que très courts. David, Salomon, ça se joue en quelques dizaines d'années. Et après, un va-et-vient incessant de peuples, de destruction, de choses compliquées. Et il y a eu une attente au Moyen-Orient, mais qui est celui qui viendra nous délivrer? Et puis on a cette figure du Fils de l'homme chez Daniel. Et puis dans le temps de Jésus, il y a les Esséniens Qumran, il y a les Hellénistes, tous ceux qui sont de culture grecque, qui ont leur propre idée de qui peut être un héros. Tous les mouvements gnostiques, c'est-à-dire tous les gens qui croient qu'il y a une connaissance secrète et que seuls quelques-uns, quelques initiés, peuvent l'avoir. Et il y a une attente. Il y a deux titres de Christ qui sont importants, le serviteur souffrant et le fils de l'homme. Ces deux titres, ces deux manières d'être de Christ ont été vraiment mal comprises. Et à l'époque de Jésus, c'était un petit peu la confusion. un titre très terrestre, le serviteur souffrant, et puis un titre céleste, le fils de l'homme, deux vocations mal comprises. En même temps, l'abaissement et l'élévation. Alors, c'est qui, c'est quoi Christ? Et il réunit en lui-même ces deux aspects dont nous avons besoin dans cette figure du Messie. On lit un texte ensemble dans l'évangile de Marc, au chapitre 14, les versets 60 à 64. C'est le moment de la crucifixion. Jésus est trimballé d'un endroit à l'autre et on l'envoie voir le souverain sacrificateur Caïphe. Alors le souverain sacrificateur, se levant au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et dit « Ne réponds-tu rien ? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi ?» Jésus garda le silence, ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Jésus répondit « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit « Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Vous avez entendu le blasphème. Que vous ensemble ?» Tous le condamnèrent comme méritant la mort. Quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage, à le frapper à coups de poing en lui disant « Devine !» Les serviteurs le reçurent en lui donnant des soufflets. Étienne suivra le même chemin que Jésus. Pilate, le souverain sacrificateur, son interrogatif, il dit « Mais t'es qui ? T'es le roi des Juifs ? Est-ce que tu es le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Il y avait une attente qui n'était pas toujours bien comprise. Et le souverain sacrificateur s'interroge, mais qui es-tu ? Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ? Jésus dit simplement, je le suis. Il ne fait pas des grands discours. Et il reprend ce texte de Daniel, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu, venant sur les nuées du ciel. Et là, Jésus endosse le costume de Christ, de Messie, de Ouin, plus que prophète. Il est l'homme que tout le monde attend. Il est le Sauveur, Seigneur, qui est attendu. Je pense qu'au fond de lui-même, le souverain sacrificateur le sait très bien. Mais ça le heurte, il y a de l'opposition. Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Vous avez entendu le blasphème que vous ensemble. Et tout le monde crie à mort. Jésus a fermé son identité messianique. Il est le Fils de l'homme attendu. Il est celui qui reviendra sur les nuées avec tous ses serviteurs. Mais là, pour le moment, il marche vers la croix. J'aimerais relire avec vous deux psaumes messianiques. Le psaume 2 et le psaume 110. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples ? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils ? Les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint ? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux, il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme les vases d'un potier. Maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte, réjouissez-vous avec tremblement. Embrassez le Fils de peur qu'il n'en s'hérite, que vous ne périssiez dans votre voie. Sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Heureux sommes-nous ce matin qui avons reconnu le Fils unique de Dieu, le Christ Jésus. Embrasser le Fils. On peut avoir des moments de tendresse avec Christ. Je vous rappelle, hein, l'apôtre Jean dit qu'il était le disciple bien-aimé. Posait sa tête sur la poitrine de Jésus et entre les deux, il y avait une relation particulière. Et au pied de la croix, Jésus, voyant sa mère et Jean, dit à sa mère, voilà, femme, voilà ton fils et fils, voilà ta mère. Il fait adopter Jean par sa mère, c'est pour dire la proximité. Personnellement, je ne suis pas toujours un champion pour pouvoir exprimer voilà, mes émotions ou ce que je ressens profondément autour de moi, mais voilà, j'aime bien savoir que voilà, je peux laisser Jésus m'entourer de ses bras et poser ma tête sur... Ah, on a toutes sortes de besoins. Non, on a aussi le besoin d'être reçu, d'être accepté. Et le premier qui peut le faire, c'est notre Dieu. C'est aussi le fils prodigue, hein, courant. Voilà, le père le voit de loin. Et se jetant dans ses bras, il dit, ah, mon fils qui était perdu. Je l'ai pratiquement vécu, moi, mot pour mot. Pendant des années, voilà, pour prendre le temps de dire, voilà, père, papa, et Jésus, voilà, mon frère, bien-aimé. En Christ, nous avons une famille. Première famille, c'est ce Dieu trinitaire, père, fils, et esprit. Il reçoit les nations en héritage. J'aimerais lire avec vous encore le psaume 110. C'est des psaumes messianiques, hein, qui nous parlent de l'identité de Jésus. Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés du sein de l'aurore. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'a juré, ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Le Seigneur à ta droite brise les rois au jour de sa colère. Il exerce la justice parmi les nations. Tout est plein de cadavres de mort. Il brise les têtes sur toute l'étendue du pays. Il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. On a des jeunes qui sont partis avec Rémi à une réunion de jeunesse en Normandie. 250 jeunes de notre église. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Priez pour que nos enfants soient remplis du Saint-Esprit. Aujourd'hui, on ne porte plus de vêtements sacerdotaux, sauf encore dans l'Église catholique, orthodoxe, réformée. Bon, c'est sobre, hein, c'est un vêtement noir avec un col blanc. Orthodoxe, c'est un petit peu plus coloré. Ce qui est important, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés du sein de l'aurore. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Malgré mon âge, je veux rester jeune en Christ. J'ai un pied dans la vie éternelle. Pouvoir relire ces textes et puis de dire c'est aussi de moi dont il est parlé dans ce texte. Père Céleste, Seigneur Jésus, je viens à toi avec des vêtements sacrés. Alléluia. Un autre texte, deux textes, trois dans le paquet, parce que vous êtes roi et sacrificateur. On est beaucoup de choses en Christ. On est beaucoup de choses en Christ. Tiens-toi droit sur tes pieds, je te parlerai. Et l'Esprit Saint entra en moi. Osons parfois le faire. Osons défier l'ennemi. Pouvoir faire un pas, et puis dire, voilà, Seigneur Jésus, je veux vivre de ton esprit, par ton esprit. On lit encore un texte dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 1, c'est une vision que l'apôtre Jean a, les versets 13 à 16. Verset 12, je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête, ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains pas, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Jésus est allé sur la croix. Il est allé 3 jours dans les régions inférieures. Il a vidé ceux qui attendaient un jugement. Et il les a emmenés avec lui dans le royaume. Rappelez-vous le brigand sur la croix qui dit, voilà, moi, c'est normal que j'ai fait des bêtises. Ce que je vis est un châtiment, mais toi. Et Jésus lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi. Jésus est allé annoncer l'évangile dans les régions inférieures de la terre. Et il a vidé tout ce qui avait peur de la mort. Une vision extraordinaire. Ce n'est plus la vision de cet être céleste avec 4 faces. Mais c'est la vision d'un fils de l'homme. On est bien dans tous ces textes messianiques où le fils de l'homme, c'est Christ. Dans sa vocation messianique, plus que prophète. On termine avec un dernier texte dans Matthieu, au chapitre 16, où Jésus va affermir sa vocation messianique. Matthieu 16, 13 à 16. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Oui, j'ai pas mis le verset sur. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Ce ne sont pas la chair et la sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Qui suis-je au dire des hommes ? Moi, le Fils de l'homme. Et on a lu le texte où Jésus, devant Caïphe, dit, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu. Jésus, pendant ses 3 ans de ministère, va entrer dans cette manière d'être, ce costume messianique du Fils de l'homme. Simon-Pierre a cette révélation intérieure, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Peut-être une confession de foi que on pourra faire en partageant le pain et le vin, au moment de prendre le pain et le vin, voilà, c'est une suggestion, de pouvoir dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et savoir que ce n'est pas une révélation terrestre, mais c'est une révélation qui vient directement du ciel. C'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Pierre est entré dans une autre compréhension de Christ. Alors je ne sais pas si le Seigneur se posait des questions pour lui-même ou s'il voulait interroger les disciples. Qui suis-je ? L'autre soir, en me couchant, je pense là, parfois, bon, moi, j'ai beaucoup d'imagination. Alors, je pensais, papa, maman, j'ai raté ma vie. Je n'ai pas fait les grandes écoles. Le matin, quand je me rase, je ne pense pas être président. Je n'ai pas de Rolex à 50 ans. J'ai une montre Décathlon à 10 euros. Fonctionne très bien. J'ai pas eu de César. En même temps, je suis pas artiste, donc j'ai pas eu le prix Goncourt. Je suis pas écrivain. Je ne suis pas à l'Académie française. Bon, j'essaie d'améliorer mon français, mais bon. J'ai pas non plus la Légion d'honneur. Personne n'a eu l'idée de dire au président, ah, Michel Canin, là-bas, il... peut-être avoir là. J'ai pas fait Polytechnique. Après, je vous laisse en chacun mettre tout ce qu'il a pas fait. J'ai simplement rencontré le Christ, le Fils du Dieu vivant et vrai. Le Fils de l'homme, ça fait un peu plus de 48 ans. Une nouvelle identité, une nouvelle vie, c'est amplement suffisant. Ça suffit à combler ma vie. Tout le monde n'a pas des honneurs terrestres, mais quelque part dans le ciel, quand je témoigne du Fils de Dieu, le Fils de Dieu témoigne pour moi auprès du Père en disant, ah, tel. Vous êtes ressuscité et vous êtes assis dans les lieux célestes en Christ. Un sujet de gloire. Paul dira, voilà, moi je renonce à tous les titres que je pourrais avoir eus, tous les sujets de satisfaction. Et je ne veux savoir qu'une seule chose, c'est Christ crucifié. Élevé sur la croix. Je vous rappelle que c'est un binôme. Hein. Élevé sur la croix, élevé à la droite de Dieu. Alléluia. Si je suis élevé sur la croix en Christ, je suis élevé aussi à la droite de Dieu. Quelques clés là, liées à ce titre de Fils de l'homme. On continuera à faire l'inventaire de ce titre parce qu'il est important et il y a encore plein de choses à en dire. On va prendre le temps.